Bonjour Sybille et bonjour à tous. Depuis que j'ai commencé à m'exprimer, comme des milliers d'entre vous sur les réseaux sociaux depuis le 7 octobre, je l'ai fait en utilisant notamment ma casquette d'avocate spécialisée en droit de l'homme. Et depuis des mois, ma messagerie Instagram est pleine de gens qui viennent me voir en me posant la même question. Mais Sarah, qu'est-ce que fait la justice ? Il est vrai qu'aujourd'hui nous vivons dans un monde à deux vitesses où la courbe des actes antisémites évolue plus vite que la courbe des condamnations en justice. Et ces derniers mois, on a eu deux affaires qui nous ont fait douter de la justice. Et je ne vous parle pas des procès en cours contre Rima Hassan dont on attend toujours qu'il daigne se tenir, ou le comportement de la France insoumise dont on peut rappeler aujourd'hui, sans la moindre décision de justice, que c'est un parti passionnément antisémite. Raphaël Enthoven aura fait plus pour la cause juive que nos tribunaux. Je vous parle donc tout d'abord de l'arbre d'Ilan Halimi, où les deux frères qui avaient abattu l'arbre ont été condamnés à 8 mois de prison ferme, mais sans que la circonstance aggravante d'antisémitisme ne soit retenue. Ou celle de la nounou qui a empoisonné la famille dans laquelle elle vivait, qui a été aussi condamnée à 2 ans et demi de prison ferme, mais là encore, sans que la circonstance aggravante d'antisémitisme ne soit retenue, et ce alors qu'elle avait quand même dit « j'aurais jamais dû travailler pour une juive ». Donc forcément se pose une question, qu'est-ce qu'il faut pour que la circonstance aggravante d'antisémitisme soit retenue par les tribunaux ? Alors c'est parti pour un petit cours de droit. Posons déjà une base. En droit français, la lutte contre l'antisémitisme passe par deux grands blocs. Le code pénal et la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. Et il est très important de faire la distinction entre les deux. Lorsque l'antisémitisme, s'exprime publiquement, c'est-à-dire par des paroles, des posts sur les réseaux sociaux ou dans les médias, c'est dire, donc quand on exprime quelque chose, c'est la loi de 1881 qui s'applique. Beaucoup de gens se trompent et pensent que cette loi ne concerne que la presse papier. Or c'est faux, elle concerne tous les propos qui sont tenus publiquement et ce qu'importent les moyens de communication. En revanche, lorsque des actes ou des violences sont commises, là c'est le code pénal qui va entrer en jeu. Le code pénal, en son article 132-76, va prévoir en effet que dans les cas prévus par la loi, certaines infractions, comme les violences, les menaces, les dégradations, voient leur peine aggravée lorsqu'elles sont commises à raison de l'appartenance vraie ou supposée de la victime à une religion déterminée. C'est ce qu'on appelle une circonstance aggravante. Mais j'en conviens, ça fait beaucoup de blabla juridique, alors on va reprendre les bases. La circonstance aggravante d'antisémitisme, c'est pas une infraction en soi, c'est un plus qui augmente la peine d'une infraction déjà constituée. Prenons une personne qui commet des violences contre une autre. Un tribunal décide de la condamner à 2 ans de prison ferme. Mais si cette personne a frappé la victime parce que la victime était juive, ça veut dire qu'elle l'a spécifiquement visée parce qu'elle était juive, alors elle ne va pas faire 2 ans de prison, mais 4. Ça veut dire qu'on a alourdi la peine parce qu'on a voulu punir deux choses. D'une part, on a voulu punir l'acte de violence en lui-même, qui est un crime spécifique, donc on lui donne une première peine, mais on a aussi voulu punir la violence idéologique, si on peut dire. Le fait d'avoir manifesté une haine envers quelqu'un en raison de sa religion. Donc on lui donne une deuxième peine. Attention, cette circonstance ne s'applique pas à toutes les infractions, mais seulement quand la loi prévoit une forme aggravée de l'infraction de base. Ça veut dire quand on a par exemple la violence, qui est l'infraction de base, et la violence aggravée, ça veut dire une violence commise à raison de divers motifs, donc l'antisémitisme. Donc on récapitule. Pour que la circonstance aggravante d'antisémitisme soit retenue, il faut 3 étapes. Première étape, il faut d'abord l'infraction principale. Des violences, une dégradation, un meurtre. Si on n'a pas cette infraction de base, on ne peut pas avoir d'aggravation. Deuxième étape, il faut que l'infraction principale soit éligible à l'aggravation. Ce sont les fameux « dans les cas prévus par la loi ». Troisième étape, il faut que la victime ait été visée à cause de son appartenance, réelle ou supposée, au judaïsme. Ce qu'il faut donc, c'est établir la motivation religieuse, le mobile antisémite. Ça peut être des insultes ou des propos antisémites qui ont été tenus pendant, avant ou après l'agression, des symboles ou des tags antisémites, des messages ou des posts montrant qu'on a ciblé la victime parce qu'elle était juive. Alors maintenant qu'on a dit tout ça, on a l'impression que c'est quand même assez simple de retenir cette circonstance. Mais du coup, se pose une question claire. Pourquoi on ne la retient pas toujours ? En premier lieu, c'est parce que la plupart des gens pensent que c'est le contexte qui va jouer, alors qu'en définitive, c'est le mobile. Le fait que la victime soit juive ne suffit pas. On peut très bien vous cibler alors que vous êtes juif, mais pour une raison totalement indépendante. Si vous êtes juif, par exemple, et qu'on vous vole, ça se trouve, la personne vous a volé, mais sans qu'elle n'en ait rien à faire de votre religion. Ce que les juges recherchent donc, ce sont des éléments objectifs, des propos, des symboles ou des messages ou une revendication qui montre qu'on a visé la victime parce qu'elle était juive. En second lieu, même si on a ces éléments, ils doivent être recevables en droit et convaincants. En effet, il arrive parfois que les propos ou éléments antisémites ont été commis bien plus tard, après l'acte en question. Ou alors, ils ont été mal recueillis dans des conditions qui ne respectent pas le code de procédure pénale. Et tous ces petits éléments vont jouer pour que le juge ne retienne pas toujours la circonstance aggravante. Prenons l'exemple de la nounou, accusée d'avoir empoisonné ses employeurs juifs. Ici, on n'a pas retenu la circonstance parce que la fameuse phrase antisémite qu'elle a dit, elle l'a dit plusieurs semaines après avoir commis l'acte. Donc rien ne dit que sur le moment, elle avait ce genre d'idée puisque c'était bien avant. Et par ailleurs, les propos en question ont été collectés par la police, mais sans la présence d'un avocat. Donc on a eu une violation du code de procédure pénale qui fait que cette preuve a dû être écartée du procès. Pour l'arbre Dylan, c'est un peu plus complexe. Le tribunal a jugé que les jeunes adolescents n'avaient pas conscience de commettre un acte antisémite. Autrement dit, d'un point de vue du droit, leur mobile, leur motivation antisémite n'avait pas été suffisamment démontrée. Autant vous dire que dans les deux affaires, les parties civiles ont fait appel pour contester la décision des juges. Mais pour conclure, retenez ceci. La circonstance aggravante, ce n'est pas une impression, c'est une preuve formelle. Je sais que nous sommes les premiers concernés, mais notre émotion ne doit pas altérer notre jugement rationnel. Et c'est cette rationalité qui fonde le socle de nos sociétés de droit et non des sociétés basées sur l'émotion ou les partis pris.